Nous allons tout de suite accueillir notre ami Philippe Quentin. Bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
Ah, l'assiette est pleine de bons sujets à commenter ce soir. Commençons par... Bon, moi, j'ai pas pris ça en direct parce que, comme tu le sais, j'étais en onde jusqu'à 21h. Ouais. Donc, puis j'ai pas rejoué la vidéo de ça aujourd'hui, mais les hymnes nationaux, réaction mitigée là, des fans au moment de solidarité des joueurs avant le match Chiefs-Texans. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça?
Ben, écoute, c'était une cérémonie qui était très sympathique. Les joueurs des Chiefs et des Texans de Houston s'étaient entendus avant la rencontre pour se retrouver au centre du terrain et se tenir par le bras dessus, et dans un moment de solidarité pour dénoncer les injustices raciales et favoriser l'équité sociale. Et ils étaient entraînés par les deux carrières vedettes qui ont chacun signé des contrats de dizaines et de dizaines de millions de dollars cet été. Patrick Mahomes pour les Chiefs, Deshaun Watson pour les Texans. Mm-hmm. Et là, c'est enchaîné par la suite. C'est un moment de solidarité pour l'équité sociale. Et là, t'entends la foule. On admettait hier environ de 16 à 17 000 personnes là, à Arrowhead Stadium en raison de la COVID, un stade qui généralement peut accueillir entre 60 à 80 000 personnes. Et là, t'entends, il y a quelques applaudissements, mais tout à coup, les huées deviennent très fortes. Ça ne dure pas excessivement longtemps. Là. Ça n'a pas été des huées d'une minute. Puis il y avait des applaudissements un peu en sourdine derrière.
On va en écouter un extrait, Philippe, si tu permets. Okay. Je ne vais pas te couper. Tu vas pouvoir reprendre tout de suite après là-dessus. Est-ce que c'est représentatif?
Ben oui. Tout à fait, tout à fait. Et là, tu vas entendre l'annonceur maison, là. Il va remercier.
Il a voulu couper court.
Oui, exactement. Ça. Il dit thank you, là. Tu sens qu'il y a hâte que ça arrête parce que c'est pas la réception anticipée. Alors, tu vois ça. Il n'y a pas la controverse de l'hymne national, là. C'est-à-dire, bon, il y a des gens qui étaient très furieux quand des joueurs comme Kaepernick, tout d'abord, ont mis le genou à terre pendant l'hymne national américain. Là, il n'est même pas question de ça, là. C'est simplement des joueurs qui se rassemblent au milieu du terrain puis qui décident de se tenir par le bras pendant un moment de solidarité. Et tu vois la réaction, tu vois combien ça choque des gens parmi le public. Il y en a qui ne le prennent pas. Pour moi, c'est à la limite, c'est anecdotique là, dans tout ce qui se passe dans le monde, mm-hmm. Puis aux États-Unis, qu'un incident comme celui-là se produise avant un match de football, là, c'est somme toute, là, dans le grand ordre des choses, c'est
on s'en
c'est
étonne
peu.
Pas tant.
Oui, mais d'un autre côté, Mario, c'est un symbole fort de la division aux États-Unis, de la polarisation de la société. Il y a vraiment deux camps à l'heure actuelle. Puis on le voit d'ailleurs, parce que dans les derniers sondages qui ont été... Un dernier sondage qui a été publié cette semaine en vue de l'élection du 3 novembre aux États-Unis. Moi, il y a une donnée qui m'a vraiment fasciné, là, c'est que, bon, Biden devance Trump par 7 ou 8 points.
Sauf en Floride.
Mais au niveau des indécis, c'est à peine 2% selon un sondage qui a été publié cette semaine. Alors, tu vois, là, que les...
C'est campé, là.
Ben c'est ça, parce qu'à 8 semaines d'élection, c'était simplement 2% d'indécis. Puis ça, c'est un sondage. Il y en a d'autres qui diraient peut-être qu'il en reviendra à des résultats différents. Mais il en reste pas moins que oui, c'est très, très campé. Puis pour moi, c'est un signe d'un malaise dans la société américaine. Et là, t'as quand même d'un malaise. Je pense que le mot est faible. Un malaise, d'une déchirure profonde.
Même chez les joueurs, Philippe, ne penses-tu pas? Parce que dans le fin fond, ce que je constate, tu vois, c'est que... Il y a quelques semaines, on aurait pensé que tout le monde allait avoir un genou à terre, non? Souviens-toi, la foulée des événements de George Floyd, c'était comme une évidence. Puis là, tu vois, les semaines passent, il y a d'autres mondes qui sont décédés de façon tragique avec de la brutalité policière. Puis tu vois que ça fait pas l'unanimité chez les joueurs. Et donc, on trouve un compromis. Pourquoi? Pour bien paraître.
On trouve un compromis, je pense, qui peut être rassembleur.
Oui.
Et je pense que là, l'idée qu'ils ont eue, les joueurs, c'était rassembleur à sa face même. Là, tu veux dire, il n'y a personne qui peut être choqué contre ça. Des joueurs qui se réunissent au centre du terrain et qui disent hey, on va faire un moment de solidarité avec ça en tête, bien sûr, avec les l'équité et la justice sociale. Tu vois le résultat, ça n'a pas été convaincant. Puis, tu sais, les joueurs, c'est clair qu'ils pensent pas tous pareils, parce que hier, par exemple, les Dolphins de Miami, ils ont annoncé qu'eux autres, là, ils resteraient dans le vestiaire pendant l'hymne national américain.
Comme les Texans hier.
Oui, c'est ça, exactement. Il n'est pas question qu'il y aille. Alors, ce n'est pas toutes les équipes qui pensent de la même façon, mais ce qui est quand même fascinant dans tout ça, c'est qu'un des principaux porte-parole parmi les jeunes vedettes de la Ligue nationale de football en faveur de ce mouvement de Black Lives Matter, c'est Patrick Mahomes, le carrière des Chiefs de Kansas City. Il est un héros à Kansas City. Il a conduit l'équipe au Super Bowl au mois de genre, février dernier. C'est la super vedette là-bas, puis c'est lui qui était derrière ce moment de solidarité hier. Et malgré ça, même si c'est le préféré de la foule là-bas, puis c'est lui qui est derrière cette initiative, ses propres fans, les propres fans des Chiefs, n'ont pas tous... Sinon, applaudis, mais à tout le moins, garder le silence pendant ce moment. Il y en a beaucoup, beaucoup qui ont hué. Alors, tu sais, quand tu penses que c'est ton propre joueur, ta propre vedette qui est derrière ça, puis tu n'es même pas capable d'accepter ça, c'est spécial.
Bien, qui disait, puis c'est ensemble que nous en discutions, je crois pas plus tard que la semaine dernière, là, qui disait à un joueur de basket, une vedette, dribble. Tu sais, vous l'en dire, toi, dribble. C'est un peu ça que ça veut dire. Toi, football. Lance des passes de toucher, là, puis
c'est tout le débat. Est-ce que les athlètes ont le droit ou non de s'exprimer sur des enjeux politiques. Puis tu te souviens, je t'ai raconté une anecdote, permets-moi de la rappeler. Tu sais, plus tôt cet été, Naomi Osaka, la jeune joueuse de tennis qui, elle, porte vraiment là, le flambeau dans le combat pour l'équité sociale. Tu sais qu'elle s'est présentée à chacun de ses matchs à l'Omnium américain avec un masque sur lequel était écrit le nom d'une victime de la brutalité policière. Alors, son dernier match, ou son avant-dernier match, elle avait le nom de George Floyd sur son masque. Et à chacune de ses rencontres, elle arrive avec un masque différent. Elle en a prévu 7. Parce qu'elle
disputera
d'ailleurs la finale, ça, ouais. C'est ça. Et ce sera le 7e match quand elle va disputer la finale demain. Donc, elle a dit tout à coup sur Twitter, parce que quelqu'un dit « Hey, Naomi Osaka, arrête, parce qu'elle se prononçait là, sur les enjeux et tout, puis arrête donc de faire ça, parce que ton rôle à toi, t'es une athlète, c'est de nous divertir. Alors, divertis-nous, puis laisse faire le reste. » Et elle a répondu « Écoutez, c'est tellement absurde ce que vous dites. C'est aussi absurde que si, par exemple, quelqu'un travaillait chez IKEA, et puis... Le seul enjeu sur lequel vous lui permettriez de se prononcer publiquement, c'est sur les bibliothèques Billy, mettons. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, ça ne tient pas la route. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça aussi qui choque des gens qui sont plus conservateurs, moins à l'aise avec ce message-là. C'est que les athlètes, on le sait, Mario, ils disposent d'une caisse de résonance qui est absolument extraordinaire. Là. Quand tu es un LeBron James, quand tu es un Patrick Mahomes, puis que tu t'exprimes, ça fait tout dans l'Amérique. Décidé de faire une vidéo avec Patrick Mahomes, qui était au cœur de cette vidéo-là, en disant à la NFL... Dites-le, là, vous devez le dire, Black Lives Matter, puis vous devez le faire. C'est une vidéo très, très percutante. Tout de suite, le lendemain, le commissaire Roger Goodell a été obligé, à son tour, de publier une vidéo dans laquelle il disait « Oui, on le reconnaît, Black Lives Matter, puis on reconnaît aussi que sans les joueurs afro-américains, notre ligue ne serait pas la même. » Mais c'était toute une admission pour la Ligue nationale de football.
Mais c'est drôle pareil, tu sais, parce que quand le mouvement, tu sais, il y a des pointes, là, excuse-moi l'expression, il y a des pics d'intensité sociale et quoi que ce soit. Puis là, on dirait que quand que là, c'est au point culminant, c'est là, faut que tu te prononces. Lui, s'est prononcé là-dedans. Mais on dirait que quand cette grosse semaine-là est passée, s'il s'était pas prononcé là, aujourd'hui, il n'y aurait plus de pression pour qu'il se prononce.
Mais
ce que je veux dire, ça serait. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, ça vient par vague où là, tout le monde, là, t'as 4-5 jours, là, faut que tout le monde, tu sais, faut que t'écrives ton message Twitter, faut que tu fasses toutes les bonnes choses politiquement correctes pour avoir l'air de vraiment endosser la cause. Mais tu sais, ça prend une pression ultime, circonstancielle, qui suit un assassinat. Tu sais, sinon, imagine, ça prend ça pour faire bouger, parce que sinon, ça retombe vite au naturel.
Ouais,
c'est impression personnelle, Philippe.
Ouais, mais c'est pas faux. D'un autre côté, je te dirais juste, là, par exemple, qu'il faut être quand même. Le mouvement, là, il ne s'effrite pas. Tu sais, à l'heure actuelle, tu as vu encore, là, dans les dernières semaines, mais même il y a deux semaines, semaine, là, les joueurs de basket, on se demandait ce qu'allait ou non poursuivre la saison, tu sais, est-ce qu'il allait se retirer de la bulle. Hier, il y a eu ce geste-là aussi. Il y en aura d'autres dans des prochains matchs. Alors, je te dirais que là, sur la durée, puis tu as raison de le mentionner, parce que des fois, sur la durée, ça
s'essouffle. Ça s'essouffle,
bien. Ouais, voilà.
Il y a un épuisement mental collectif avec la COVID, puis tout ça, puis des gros enjeux de même. Je pense que collectivement, mais oui, il demeure tout aussi important. Je suis pas en train de faire l'avocat du non-sens. C'est pas ça pendant tout. Je fais juste constater avec une certaine déception que, tu sais, ça prend toujours une nouvelle source d'indignation récente, sinon l'indignation s'essouffle et s'estompe.
Oui, c'est ça. Là, on va voir. Hein, tu sais qu'un des mouvements principaux des joueurs puis des équipes qui ont décidé de collaborer, c'est de favoriser, mais plutôt d'encourager un maximum de gens à aller voter le 3 novembre prochain. D'ailleurs, la NFL, avec l'Association des joueurs, s'est lancée dans une opération. On sait qu'il y a beaucoup d'équipes de basket, en fait, presque toutes les équipes qui vont rendre leur amphithéâtre disponible pour qu'on puisse établir des bureaux de vote. Donc, il y a vraiment un mouvement, là, puis c'est un mouvement significatif parce qu'on sait que il suffit de connaître un peu la politique américaine pour savoir que plus il y a de gens qui vont voter, ça va favoriser le candidat démocrate. Puis on le sait que les républicains, on le voit encore aujourd'hui en Floride là, avec une décision de la Cour, que plus on va empêcher les moins favorisés de la société à voter, plus ça va favoriser le président Trump.
Philippe, je suis convaincu que tu te porterais volontaire avec moi qu'on allait faire du taxi pour aider des gens à aller voter, mais c'est pas du bon bord de la frontière parce qu'on irait, hein? Je parle pour moi, je t'amènerais pas dans une affaire de même. On va parler de tennis un petit peu. Défaite de Serena hier, honnêtement. Azarenka t'as pas là pantoute au premier set, mais j'ai assisté au réveil en début de deuxième manche. J'avais pas vu la fin du match, qu'attendre de voir le résultat final. Donc Serena éliminée hier.
Oui, c'était un vrai beau match de tennis. Je dois t'avouer que c'est ça que j'ai le plus écouté hier, là, bien avant le football. J'ai écouté, on change de poste.
C'était pas un grand match, le football. C'était le fun de voir le premier match, mais c'était pas un classique.
C'était un premier match, c'est ça. Exactement. Mais le tennis, c'était vraiment quelque chose. Puis tu sais, tu vois Serena Williams, là, elle a 23 titres du Grand Chelem dans l'ère moderne, c'est-à-dire depuis 1968, ce qu'on appelle l'ère open. C'est elle qui a le plus grand nombre de titres. Elle a battu là, Steffi Graf, qui en a 22, elle en a 23, mais si tu calcules tous les championnats, même avant l'ère Open, c'est Margaret Court, l'Australienne, qui en a 24. Alors, elle aimerait bien Serena Williams, ça fait longtemps qu'elle cherche à remporter ce 24e tournoi majeur. Elle avait une belle occasion cette semaine. Hier, elle prend la gagne le premier set, comme tu le dis si bien, un tennis très, très agressif, frappe la balle avec beaucoup, beaucoup de puissance. Mais au deuxième, là, Victoria Azarenka, elle n'a pas du tout été abattue, même si elle n'était pas là au premier set. Elle est revenue en force. Je pense que ça a ébranlé Serena Williams. Et là, ce qu'elle a fait à Azarenka, c'est qu'elle a commencé à faire courir Serena Williams. Il y a eu des échanges de certains jeux. C'est à gauche, à droite, à gauche, à droite. Même tout à coup, après un de ces échanges-là qui était très long, les deux frappaient la balle avec une puissance inouïe. Serena Williams elle a perdu cet échange-là, puis après était épuisée, elle était pliée en deux derrière la ligne de fond. Et là, tu sentais qu'au niveau mental, au niveau psychologique, c'était avantage à Azarenka. Puis pour moi, là, à partir du milieu du deuxième set, là, vraiment que c'est très, très facile à dire, j'en conviens, quand la rencontre est terminée, mais tu sentais que Azarenka avait vraiment l'avantage puis avait vraiment pris l'ascendant sur le match. Puis tu sais, aujourd'hui, j'ai lu beaucoup, beaucoup de commentaires sur cet affrontement-là. Puis un de ceux qui m'a frappé, je me souviens plus si c'est Pam Shriver peut-être, mais sous toute réserve, là, c'est une autre ancienne joueuse qui a dit ça. Elle a dit une chose très intéressante. Elle a dit « Serena Williams est encore capable de jouer du gros, gros tennis offensif. Mais quand vient le temps de jouer du tennis défensif, là, elle a le plus de misère. » J'ai trouvé que c'était tellement une bonne analyse parce que quand Victoria Azarenka s'est mise à attaquer, Serena Williams n'a pas été capable d'arrêter ça.
Et c'est sûr que c'est en fait les adversaires doivent exploiter ça. On doit faire en sorte de la faire déplacer parce qu'on veut exploiter sa faiblesse. Sinon, on subit son match et sa puissance. Un petit mot bien vite, puis on en reparlera en temps et lieu là, avec tout le temps qu'il faut. Mais des performances intéressantes pour Eugénie dans un tournoi de deuxième niveau. Mais c'est nécessaire de gagner là pour rebondir. Là.
Ben tout à fait. Puis tu sais, elle a remporté aujourd'hui son match de quart de finale. Elle atteint la demi-finale. C'est la première fois en plus de deux ans qu'elle va atteindre la ronde de demi-finale d'un d'un tournoi de la WTA. Il y avait quand même de très bonnes joueuses qui participent à ce tournoi-là. Elle a battu plus tôt cette semaine Svetlana Kutsenova, qui vieillit, bien sûr, mais qui est quand même une ancienne gagnante de tournoi de Grand Chelem, à deux reprises, je pense. Alors, je pense que pour sa confiance, c'est bon. On va faire un bond dans le classement aussi. Elle devrait se retrouver, là, son classement ne devrait plus commencer par le chiffre 2, c'est-à-dire dans les 200e au monde. Elle devrait revenir dans les 100. Mais je pense que l'aspect principal, c'est qu'elle a retrouvé ce goût-là. En tout cas, c'est ce que ça semble démontrer, le goût de se battre, mm-hmm. puis de ne pas s'effondrer non plus. Parce qu'elle a eu des petites difficultés dans un de ses... Pas le match qui lui a permis d'atteindre la demi-finale, mais la rencontre précédente. Elle aurait pu enlever le match plus tôt, deuxième set et tout. Ça n'a pas fonctionné, mais elle n'a pas été abattue au troisième set. Elle est revenue en force, elle a gagné. Alors c'est ça, je trouve que c'est
encourageant. C'est la régularité de son service, elle, qui est souvent en cause. Hein,
ouais, c'est
vrai
deuxième,
pour bien des joueurs. Ouais, c'est ça.
C'est un problème.
Quand tu as réussi à servir, ben c'est vrai pour tellement de joueurs. Je veux dire,
tu la regardes, Eugénie Bouchard, là, Mario. Là, je comprends, c'est une belle vie quand même, joueuse de tennis professionnelle et tout, puis elle a fait des sous, puis tout ça, bravo. Mais tu sais, elle s'accroche. Moi, j'admire ça. Elle s'accroche, puis elle s'en va. Puis tu sais, là, en Turquie, là, le tournoi, là, elle a eu une invitation. Hey, c'est beau, une invitation, mais pas une invitation pour le tableau principal. Une invitation pour les qualifications. Puis elle s'est qualifiée, tu sais. Alors, tu pars
de bas. Puis elle aime son sport. Tu fais pas ça si t'aimes pas ton sport. Puis ça, c'est la clé. Puis c'est tellement important. Puis oui, j'ai de l'admiration pour ça.
Ouais, moi aussi.
Pendant que t'en parlais, c'est ça qui me... C'est la pensée que j'avais en tête pendant que tu parlais d'elle. Puis on a tous du respect pour ça.
Tu sais, elle dit souvent, Eugénie Bouchard, combien elle aime le tennis. Puis tu sais, un bout de temps, je pense que plusieurs, on se posait la question, qu'est-ce qu'elle aime au jeu? Est-ce qu'elle aime le sport ou elle aime tout ce qui vient avec?
Ouais.
Et puis c'est légitime parce que tout ce qui vient avec, pour elle, ça a été très grisant. Mais là, je trouve que là, dans le moment, là, elle est en train de prouver à nous tous, elle se le prouve sans doute pas elle-même, puisqu'elle dit qu'elle a toujours été comme ça, mais elle est en train de prouver à tout le monde qu'elle aime vraiment le tennis, parce que ce qu'elle fait dans le moment, là, partir en Turquie, puis une invitation juste pour se qualifier, puis y aller, puis gagner, puis c'est, je trouve ça pas mal.
Un mot sur Hugo Hull, qui fait parler de lui pour les bonnes raisons. Un Québécois n'a jamais aussi bien performé que ça au Tour de France. Il est régulièrement dans le top 10, Philippe.
Ouais. Écoute, c'est absolument exceptionnel. Il y a pas de passé cycliste très très fort au Québec. Là. Quand t'arrives, t'es un Québécois puis t'arrives en France. Même quand t'es un Canadien, tu sais, je parle pas seulement de Québec, mais le Canada dans son ensemble. Il y a Steve Bauer là qui a été là. Il y a Gédal qui a été là aussi.
Oui.
Mais tu sais, c'est pas, il y en a pas eu des masses non plus. Là, t'arrives avec Hugo Hull qui fait ma foi un super beau Tour de France. Cette semaine, il aurait peut-être pu gagné une étape, il a été dans le coup jusqu'à la fin, il a terminé, c'était la 12e étape, il a terminé 7e, puis tu sais, pour lui, pour sa confiance, ça a été tellement extraordinaire, parce que lui, il gagnera jamais le Tour de France, là, Hugo Hull, on s'entend là-dessus, mais s'il gagnait un jour une étape du Tour de France, ça serait extraordinaire, puis je pense qu'avec sa performance de cette semaine, et puis on l'écoutait, là, ses commentaires, c'est ce qu'il a dit, ça me donne confiance, puis ça me fait croire qu'un jour, je pourrais gagner une étape du Tour de France. Alors, tu vois ce gars-là, dans un sport dont les racines. Oui, tout le monde aime le vélo puis tout ça, là, mais le cyclisme de compétition, là, quand tu arrives en France, là, puis les équipes du Tour de France, là, puis ils te demandent, tu viens d'où, toi? Moi, je viens du Québec, tu sais. Ah oui, tu sais, c'est qui les autres grands Québécois avant toi? Là? C'est pas comme si tu venais de la Belgique, de la France ou de l'Italie ou de la Colombie.
Non, t'as raison, on n'a pas la même tradition. On avait non, on n'avait pas cette tradition-là. Mais il y en a eu des pionniers du cyclisme, comme il y a eu des pionniers de bien d'autres sports. Tu regardes-tu du basket ce soir, Philippe?
Ah, ça, c'est sûr, j'ai tellement hâte. 9h, ça va être tout un show.
Oui, monsieur, et j'aimerais ça que les Raptors gagnent.
Ben, oui,
c'est un euphémisme que de le dire.
Ça serait fun, ça va te mettre de l'intérêt pour la série suivante.
Mais, hein.